19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici même durant une heure, jusqu'à 20h. Et à 20h, nous allons tout simplement, vous le savez, hein, commenter, analyser et décrypter l'actualité dans les informés. Avec vous, au standard 01 53 48 3000. Alors au menu, ce que je vous propose ce soir, tout d'abord le Quoi de Neuf avec Maître Fabrice Divisio, tout de suite dans une poignée de minutes. À 19h30, c'est le Quoi de Neuf avec le docteur Majid Seoussine, et puis les invités qui viendront parler de leur tribune avec Naïma Siffer justement, et l'Association des élus de France. Alors, les trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Valérie Pécresse qui dit clairement ne pas vouloir participer à un débat avec Emmanuel Macron sans sa présence, parce qu'à un moment, eh bien, il doit venir défendre son bilan. Qu'en pensez-vous? Je poserai la question au débatteur. Anne Niva, la femme de Jean-Jacques Bourdin, le journaliste célèbre de BFM TV, a été, évidemment, vous le savez, hein, remercié gentiment, hein, a regagné la porte. Et puis, Anne Niva, sur CNews, qui fond en larmes en évoquant l'affaire Jean-Jacques Bourdin. Je sens la haine contre lui, ça détruit ma famille. Je ne sais même pas si je continuerai à écrire. Ça, c'est la déclaration d'Anne Niva, sa compagne. On parlera de cela tout à l'heure et de ce qu'a vécu Jean-Jacques Bourdin. Trapp qualifié de république islamique. Ça, c'est une déclaration de Jordan Bardella, qui est d'ailleurs mise en examen pour ses propos. Bon, eh bien, on reviendra sur cette déclaration. Le maire Ali Rabet à la mairie de Trapp, il doit être bien content, lui, non? 01 53 48 3000, ça c'est votre numéro partout en France, vous nous appelez et vous intervenez évidemment jusqu'à 20h, à l'heure que vous le souhaitez. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
On démarre l'émission avec le Quoi de Neuf comme chaque mercredi.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec Maître, la signature de Maître Fabrice Divisio. Bonsoir, mon cher Maître. Bonsoir. Allô. Ah, allô, Fabrice Divisio, mon cher Maître, vous êtes là? Allô. Bon, on va le rappeler. On va le rappeler, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est le direct, c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Nous vivons, lorsqu'on vit le direct, eh ben on le vit, évidemment, avec l'aspect technique. Parfois ça saute, parfois c'est là. C'est comme ça, c'est le live. Ça prouve quelque part qu'on est en live auprès de vous. Hein? Maître Fabrice Divisio, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que
je
vous êtes avec
là.
Nous? Ah! On vous a retrouvé, Maître Fabrice Divisio. On vous écoute pour la signature du Quoi de Neuf avec votre carte blanche. C'est parti!
Alors, mon cher Adil, dans ces temps de pessimisme ambiant, ce soir, pour une fois, je suis plutôt optimiste, plutôt jovial même, pourrait-on dire. D'abord, le pass vaccinal est une merveilleuse réussite. Jamais autant de cas en France, jamais autant de décès depuis un an, jamais autant de personnes en soins critiques. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Enfin, ça c'était avant, parce que maintenant on a du pétrole et des vaccins. Je ne sais pas si c'est plus ou moins bien, mais c'est comme ça. Ensuite, à propos de pétrole, tiens, Gabriel Attal a inventé la voiture au plein à 2 euros.
Ah.
Honnêtement, c'est une révolution dont personne n'a suffisamment parlé jusqu'ici. La générosité du gouvernement est sans faille. 50 pleins, mon cher Adil, pour les plus précaires, ça ne se refuse pas. Vous vous souvenez de la polémique autour du prix de la baguette de pain? Aucun candidat n'était jadis capable de savoir quel était le prix d'une baguette. Et est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas. Mais Gabriel Attal, lui, doit savoir et je regrette que personne ne le lui demande. Car en effet, si on considère un plein à 2 euros, alors à combien diable fixe-t-il le prix de la baguette de pain? Pas la tradition, nouvelle invention pour Bobo Parisien en mal d'innovation, mais la baguette. Le truc basique plein de farine dont la taille s'est raccourcie au fil des années. Et à propos de raccourcissement d'ailleurs, ma joie est sans pareil à l'idée que si Valérie Pécresse est élue, nous aurons raccourci l'année calendaire de 119 jours, passant de 365 à 246. La baguette de Gabriel Attal et les fromages de Valérie Pécresse, nul doute que la présidentielle va être inédite. Et à propos de la présidentielle, mon cher Adil, avez-vous regardé la nouvelle émission Tendance du PAF face à Mama?
Oui.
Un débat Mélenchon-Zemmour, rien que ça. Un combat de catcheurs, un championnat de boxe française, le chouchou de l'extrême droite contre le champion de l'extrême gauche. Tous les séparés, c'est un tournoi tant attendu qui s'est déroulé sous les yeux des Français, Méluche contre Zézé. L'un n'aime pas les Arabes mais aime les riches, l'autre aime les Arabes mais déteste les riches.
Ça.
Tous les opposent, je vous dis. sauf le pass vaccinal. L'un et l'autre ont dit qu'ils l'abrogeraient, ce pass de la honte. Tous les deux ont dénoncé cette atteinte liberticide et se sont unis dans un élan commun au service de la liberté, de l'égalité, pas encore de la fraternité, faut pas déconner non plus. Mais l'un et l'autre s'y sont soumis pour entrer en plateau. L'un et l'autre ont réussi à faire 4 heures d'émission sans jamais évoquer la mesure la plus dingue qui n'ait jamais été. Finalement, à la fin de la fin, si je résume, on a le porte-parole d'un candidat qui pense que les plasmas à 2 euros, une candidate qui veut faire coller le calendrier civil au nombre de fromages en France, et deux autres qui veulent abroger une mesure à laquelle ils se soumettent sans rien dire et qui n'est même pas un sujet pour eux. Ben, je vais vous dire, l'un dans l'autre, Valérie Express, Pécresse, a quand même apprécié 246 jours.
Clochette, il a raison.
Je le connais, hein.
246 jours, c'est quand même 119 jours de moins à écouter les conneries des hommes politiques français, et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle.
Bravo, mon cher maître.
J'aime bien l'édito.
Qu'est-ce que vous dites, Amélie Schriette ?
Grand bonjour à mon cher ami.
Bonjour, ami.
Maître Fabrice Divisio, merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous retrouve mercredi prochain pour une autre signature d'un autre billet.
D'accord.
Exactement. Bravo à vous, c'était le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec l'invité. On va parler, vous savez quoi, d'une tribune, la tribune élection présidentielle 2022. Les quartiers populaires au cœur de la campagne. C'est le titre de cette tribune, justement, dans ces territoires, des boucs émissaires par les candidats de droite comme d'extrême gauche, de l'abstentionnisme qui domine très largement. Et on va revenir avec Naïma Siffer. Et justement, sa collègue qui vont être avec nous, et ce sont d'ailleurs nos invités pour parler de cette tribune et la raison pour laquelle, comment ils ont décidé, avec l'Association des élus de France, d'inscrire, j'ai bien dit, avec les élus de la diversité, eh bien, leur engagement, y compris dans cette campagne présidentielle qui est en train de s'annoncer et à laquelle, évidemment, aujourd'hui, on est à 70 jours de cette campagne. L'invité du jour, c'est parti, c'est tout de suite.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Naïma Siffer. Bonsoir, Naïma Siffer.
Allô?
Allô ?
Allô ?
Oui, vous êtes avec nous, Naïma Siffer ?
Tout à fait. Bonjour, Adil.
Bonjour. Est-ce que vous êtes avec votre collègue ou doit-on la contacter, justement ?
Alors, il me semble que vous devez la contacter, tout à fait.
Eh bien, écoutez, je vais demander à mon réalisateur de contacter donc la collègue, justement, pour intervenir. Naïma Siffer, vous êtes élue, d'accord ? Rappelez-nous votre fonction et dans quelle ville vous êtes élue, précisément, Naïma Siffer ?
Alors, je suis élue dans l'Essonne, dans le 91. Et secrétaire général de l'Association des élus de France.
L'Association des élus de France. Vous avez justement, Naïma Siffer, rédigé avec des collègues élus, justement, une tribune qui est parue, dont beaucoup de gens, évidemment, elle a fait beaucoup de buzz et beaucoup de gens en ont parlé. De quoi s'agit-il précisément ? Dites-nous, cette tribune, d'abord, de quoi elle parle ? J'ai bien compris que c'était les quartiers populaires.
Alors, cette tribune parle notamment... entre autres des quartiers populaires, mais aussi du climat qui s'est instauré pour ces présidentielles et qui ne présage rien de bon. On parle énormément d'immigration, etc. Mais les sujets de fond, ok, c'est un vrai sujet, je ne dis pas que ce n'est pas un vrai sujet, mais il y a d'autres sujets. Il y a l'éducation, on traverse une crise qui est économique, sanitaire, écologique. Tous ces sujets sont aussi importants. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas sur les débats, par rapport aux débats télévisés, on n'en parle pas. Et c'est un cri du cœur. Cette tribune, c'est vraiment un cri du cœur de ces 180 élus qui sont transpartisans, républicains, profondément républicains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on alerte sur tout ça.
Ah, j'étais pas à l'antenne en direct. Vous alertez sur tout ça, Naïma Siffer. Qu'est-ce que vous alertez justement ?
On alerte justement sur ce climat qui est anxiogène. Nous, quand on est les élus qui sommes premiers de tranchée devant nos citoyens, et on nous dit, moi quand mes administrés me voient, me disent, nous on a peur. Voilà. Il y a un climat de peur qui s'est installé, un climat anxiogène, et c'est vrai que les débats tournent toujours autour de la même chose. Et aujourd'hui, justement, on veut que ces forces vives de ce pays, les artistes, les journalistes, les intellectuels, les politiques, prennent ces sujets-là à bras-le-corps et œuvrent pour cette réconciliation nationale dont l'Association des élus trans veut s'inscrire.
Elle veut s'inscrire, justement. Comment comptez-vous, Naïma Sifar, c'est très important, vous inscrire dans cette dynamique présidentielle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller voir les quartiers, les populaires, les habitants des quartiers populaires, pour leur dire quoi? D'abord, est-ce que, qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? S'inscrire dans les listes électorales? S'impliquer? Sous quelle forme? Et voilà, la question est très simple.
S'intéresser à eux. Aujourd'hui, c'est pas un électorat pour ceux qui sont engagés pour les présidentielles. Pour eux, les gens issus du quartier populaire ne sont pas un vrai électorat parce qu'ils ne votent pas. Mais pourquoi ils ne votent pas? Parce qu'ils n'ont plus confiance, justement. Il faut renouer cette confiance avec eux. Nous, justement, on est des élus du terrain et il faut prendre ces sujets-là, aller les voir, parler avec eux. Il y a des sujets très important, le logement par exemple, l'habitat c'est un sujet qui est très important. Aujourd'hui on sait qu'en France, tout ce qui est logement c'est un sujet, un vrai sujet. L'éducation est un vrai sujet. Il y a beaucoup de choses comme ça, de ces thèmes-là, que nous, les élus de France, voulons que justement ces politiques prennent ces sujets-là à bras-le-corps, tout simplement.
Naïma Sifar, Fatima Ogbi est avec nous également, elle est notre invitée. Bonsoir Fatima Ogbi.
Bonsoir à tous.
Vous avez entendu Naïma Sifar. Qu'est-ce que vous dites, vous? Alors, l'intérêt de cette tribune, on l'aura compris, mais est-ce que vous pensez que cette tribune, évidemment, va provoquer une véritable prise de conscience dans les quartiers populaires?
Écoutez, d'abord, cette tribune, elle n'est pas faite pour donner une prise de conscience en direction de ceux qui habitent dans les quartiers populaires, parce qu'eux vivent ce qu'on a inscrit dans la tribune. L'électrochoc, l'interpellation qu'on fait, elle est plutôt à ceux qui sont aujourd'hui soit en responsabilité, soit qui souhaitent être président de la République ou présidente de la République. Et Naïma, pardon, le disait tout à l'heure, dans une période de crise sanitaire où le moral des Français est au plus bas, elle en a énoncé les raisons. Moi, je pense que c'est pas le moment où il faut en plus rajouter de l'huile sur le feu en essayant de diviser encore plus la société ou en pointant du doigt une partie de la population. Je pense que c'est dangereux. Et donc, la violence dans les propos, d'ailleurs, de certains, c'est ça qui nous ont fait réagir. Parce que les discours racistes, nauséabonds, ça fait longtemps qu'on en entend. Et notamment par le Front National et ses militants. Sauf que la violence dans les propos de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, on ne pouvait pas rester à côté. On était obligés, on s'est sentis dans nos responsabilités quand on rencontre tous les jours des gens, et notamment dans les quartiers populaires, puisqu'on y est issu. Je suis aussi maire adjointe sur la commune de Grigny. Quand on essaye de donner des perspectives, quand on essaye de donner de l'espoir, quand on leur dit « faut pas laisser tomber, faut vous battre », et qu'à côté de ça, alors qu'ils sont déjà relégués dans les quartiers, on les pointe encore plus du doigt en leur disant « au vu de vos origines ou de votre religion, vous faites encore moins partie de la société », c'est ça le cri que nous, on a voulu passer.
Oui. Alors, dites-moi, l'une et l'autre d'ailleurs, Naïma Sifar et Fatima Ogbi, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à tous les auditeurs qui vous écoutent, justement dans les quartiers populaires? Naïma Sifar.
Alors moi je leur dis justement de ne pas lâcher, d'aller voter, parce que le vote c'est important, voilà, d'aller voter pour un candidat qui travaillera justement sur cette réconciliation nationale. Aujourd'hui, moi je demande aussi aux politiques, nous en tant qu'élus, on a un devoir, d'accord, on a ce devoir d'être responsable de nos prises de parole. Voilà. Donc je leur dis d'aller voter et de ne pas lâcher.
Fatima Ogbi, qu'est-ce que vous dites?
Moi, ce que je peux dire à ceux qui habitent aujourd'hui dans les quartiers populaires, d'abord on vit avec eux, je vous ai dit on est en responsabilité dans ces quartiers, c'est d'abord de leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme. Et que tous ceux qui souhaitent les pointer du doigt et tous ceux qui souhaitent les reléguer, justement parce qu'ils ont peut-être pris l'habitude que quand nos parents sont arrivés en France et qu'ils appelaient à la discrétion, un peu la peur. On a aujourd'hui une jeunesse qui est ambitieuse, une jeunesse qui a envie de réussir. Je leur dis, ne laissez jamais, jamais, jamais personne vous faire croire que vous ne pourrez pas y arriver et vous avez toute votre place dans la société. Alors, ça passe par la politique, puisque c'est la politique qui décide aussi politique, il y a une part de responsabilité dans les décisions et dans les politiques qui sont menées. Investissez-vous, regardez ce qui se passe dans vos communes, par le tissu associatif, par les partis politiques. Vous avez une voix, il faut la porter, croyez-y et ne lâchez jamais rien.
Merci Fatima Ogbi, merci, vous êtes élue. Merci Anaïma Sifer, vous êtes élue également. Et vous faites partie donc de l'Association des élus de France. On vous retrouvera régulièrement sur notre antenne dans les informés, justement.
Avec plaisir.
Pour venir apporter votre regard. Merci à vous deux d'avoir été dans les informés.
Bonne soirée,
19h14, 15 même d'ailleurs. Nous allons marquer une pause et on revient tout de suite après, justement avec le face-à-face, y compris vous au 0153 48 3. Mais là tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h21, merci d'être avec nous si vous venez de nous rejoindre. C'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Y compris vous, vous auditeurs, jingle, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Vous intervenez évidemment quand vous voulez. Valérie Pécresse qui ne participera pas à un débat. Vous savez ce qu'elle dit ? Qu'en présence d'Emmanuel Macron, s'il refuse le débat, ben ce sera le candidat du mépris. Ouh là là, Valérie Pécresse, c'est l'âge de ne pas venir défendre son bilan. C'est ce qu'elle dit. Écoutez, Anis va nous proposer donc un petit court extrait.
D'attendre de ne pas rentrer dans la mêlée, au fond, vu ce qui s'y passe.
Ben moi, je vois un président qui a peur de débattre. Un président qui a peur d'affronter son bilan. Parce qu'il sait que tout ce qu'il est en train de construire comme, j'allais dire, comme vitrine de son bilan, en réalité, c'est un écran de fumée. Et que derrière, il y a la réalité d'une économie qui souffre, une économie qui n'a pas réussi à recréer un tissu industriel solide, une économie qui est dopée au chèque, à l'argent public payé par les contribuables, qui est dopé à la dette, qui est dopé au déficit, mais une économie aujourd'hui qu'on doit redresser avec des réformes et du travail.
Alors justement, Valérie Pécresse, elle cherche quoi au juste à faire parler d'elle quand elle parle de Macron ? Macron, il n'est pas encore candidat. Gamal Abina, elle cherche quoi ?
Elle cherche à exister politiquement parce que malheureusement pour elle, son démarrage est très difficile parce que la stratégie de Macron mise en place avec le lancement sur orbite de Zemmour a fonctionné. Il a, comme Mitterrand en son temps, il a atomisé l'extrême droite, on le voit très bien, puisque Le Pen est en train de s'effondrer, elle perd beaucoup de soutien. Et surtout la droite, c'est un double appât, il a fait un billard à trois bandes, et il a réussi son coup. Donc elle cherche à exister, parce que le seul moyen pour pouvoir obtenir des résultats en termes électoraux, c'est de démontrer que M. Macron n'est pas en mesure, n'est pas capable de gérer l'économie. Malheureusement pour elle, on peut critiquer beaucoup Macron sur plein de points, il n'y a aucun problème, mais il a réussi son pari économique, ça coûte cher, hein. Des emplois aidés à 8 000 euros, ça coûte cher. Mais il a réussi à faire baisser le chômage artificiellement. Il a réussi quand même un bilan relativement honorable sur la scène économique. Et il profite évidemment de la fin du travail des baby-boomers qui fait que la transition économique est en train de se faire et qu'elle a besoin, elle, à tout prix, avant... On est à moins de 70 jours maintenant de l'élection.
Mais pourquoi elle cherche absolument à débattre avec Emmanuel Macron ? C'est quoi le juste ? Pourquoi ce face-à-face ?
C'est parce qu'aujourd'hui, Pécresse est en difficulté. Macron, depuis le début, ça fait quoi ? 5 ans maintenant, qui tourne à 25%. Il a une base électorale extrêmement solide. Donc pour déstabiliser sa base électorale et pour montrer que ceux qui sont à droite chez Macron...
Je vous dirai votre point de vue, Donna.
Ceux qui sont à droite chez Macron, parce que Macron a ratissé large gauche-droite, ceux qui sont à droite, elle essaie de les séduire à nouveau, parce que c'est lui qui a siphonné la droite. Les séduire pour dire il n'est pas sérieux économiquement, je propose un programme solide parce que j'étais président de région et que je sais de quoi je parle. Le problème, c'est qu'effectivement, elle comprend le danger. Macron est très malin. Il a dit, et il a répété encore ce matin, qu'il ne se présenterait qu'à une seule condition, c'est que, et c'est une condition ridicule, qu'il y ait une stabilité sur la crise du Covid. Bon, c'est très bien que ça durera encore jusqu'en juillet. Et surtout, qu'il y ait une stabilité à l'international, ce qui ne veut rien dire. En vérité, Macron profite de son statut de président sortant, mais président actif, en plus président de l'Union européenne, c'est pas rien, la présidence tournante de 6 mois, pour dire je suis un président qui est au-dessus de la mêlée, et il le fait très bien. 25% dans les sondages. Il ne bouge pas.
Ahmed Chriad, justement, et ensuite on entendra Abdeslam Itach.
Je suis beaucoup plus mitigé sur le bilan de Valérie
justement,
Pécresse.
Justement, c'est l'intérêt du
vous
débat.
Savez, Valérie Pécresse, je ne partage pas toutes ses idées, mais elle a été comme ministre du budget. Elle a une expérience d'abord gouvernementale. C'est une personne qui va, vous savez, petit à petit, comme une petite tortue, mais qui au final, à l'arrivée, arrive. On l'a vu dans les primaires, par exemple. Elle n'était pas, parmi les sondages, l'élu, hein. On l'a vu aussi à travers d'autres élections. Et donc, le conseil l'Île-de-France, quand elle est devenue présidente de l'Île-de-France, de la région, même chose. On a dit dans les sondages qu'elle ne gagnerait pas, etc. Donc moi, je me méfierais un peu de Valérie
Pécresse. J'aime bien l'image de la tortue, c'est pas mal.
Oui, mais c'est vrai.
Les tortues, elles n'arrivent pas au bout de la ligne.
Valérie Pécresse, contrairement à ce que l'on dit, c'est une personne, d'ailleurs que moi d'abord, j'ai discuté avec elle, que je connais, qui est structurée, connaît ses dossiers, effectivement, et qui est très bien entouré.
Je suis pas du tout d'accord, mais on va parler en deux minutes.
Attendez, c'est bien. N'oubliez pas, effectivement, que les anciens ministres qui ont participé à la primaire, on a eu, par exemple, un commissaire à l'Union européenne, des anciens ministres, etc., qui sont structurés. C'est pas, je veux dire, l'équipe gouvernementale Startup Nation, qui ont entre 30 et 40 ans.
Ah, ça tacle. Aïe.
Si vous voulez, Dieu sait que je ne partage pas toutes les idées de Valérie Pécresse, mais il y a quand même une expérience. Il y a ça, et je pense que c'est une personne qui est redoutable, et Emmanuel Macron, c'est pour la raison pour laquelle il a Emmanuel Macron essaye de ratisser grand large, c'est sa stratégie, c'est pour ça d'ailleurs, et que son ennemi, c'est aujourd'hui Valérie Pécresse.
Tout. Ouais. Voilà. Alors, Gamal, Abdeslam Itach, et je vous redonne la parole. Alors, Abdeslam Itach.
Alors, d'abord, j'abonde dans le sens de Gamal, et en effet, de toute façon, elle parle de candidat du mépris, mais je tiens juste à rappeler une chose. François Mitterrand, par le passé, et Jacques Chirac n'ont pas été justement dans ce genre de débat. Il faut faire confiance aux Français, il y aura un programme qui sera présenté. Eux seront les seuls en mesure de pouvoir dire si le projet les intéresse pour 50 plus ou pas. Ce que je veux juste dire, concernant Valérie Pécresse, on le voit bien, d'abord elle est très très mal conseillée, je tiens à le préciser.
Qui c'est, Pécresse ?
Valérie Pécresse, oui, ouais. Avoir Ciotti autour d'elle et courir après l'extrême droite. D'abord, ça ne réussira pas la droite parce que les Français préfèrent l'original à la copie. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà qu'elle fasse le ménage dans son parti, qu'elle puisse avoir une ligne à droite, mais pas à l'extrême droite, et qu'elle évite cette porosité avec cette extrême droite. Vous savez, comme ces petites phrases malheureuses, sortir le karcher de la cave, qui est une vraie injure, hein, pour un grand nombre de personnes. Donc, qu'elle fasse déjà le ménage dans son parti, qu'elle puisse être force de proposition, qu'elle puisse proposer un vrai projet pour les Français, en espérant qu'ils adhèrent, un projet qui tienne la route. Et voilà, enfin.
Gamal Abidine.
Alors. Voilà, je vais répondre très vite.
Justement, très simplement, notamment, ce qu'il vient de dire. Réaction.
Voilà, en substance, effectivement.
Amit Chriot.
Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'elle soit même bonne et qu'elle connaisse ses dossiers. Elle est médiocre, voire très médiocre. D'abord.
Mais il l'a rencontrée plusieurs fois.
Oui, mais j'ai rencontré une fois dans un meeting. Aussi. Ça m'a suffi. J'ai refusé de prendre la photo. C'est vous dire. J'ai écouté 2 heures de meeting. Ce n'était pas la politique alors qu'elle était présidente de région. Elle ne parlait pas d'économie alors que c'était ça. C'est la raison pour laquelle elle était à la région. C'était l'économie. Hein. La région ne s'occupe pas des quartiers. Elle a parlé que de quartiers d'islam de Bourka, de stupidité de ce genre. La droite était noble lorsqu'elle s'élevait avec des Chirac, des De Villepin, des De Gaulle, des Giscard, on peut le dire. Elle n'a pas été le meilleur président de droite, mais ça a été un bon président. Dans la mesure, ils avaient quand même à cœur de développer un pays et de mettre au centre du débat l'économie. C'est la raison pour laquelle la France brillait à l'époque de Barre, rappelons-nous, d'une économie qui était extrêmement rentière. Et par la suite, elle s'est dégradée. Et cette droite qui est arrivée est une droite populiste assez crasseuse, celle de Sarkozy, une droite sale, une droite...
Oui, crasseuse. Il a droit à une clochette, lui aussi.
Oui. Donc, on dira sale pour pas dire crasseuse, parce que je sais que c'est connoté sur autre chose. Donc,
non, c'est pour ça que vous avez le droit à une.
Oui, parce que j'ai oublié la connotation négative qu'il y a.
Exactement. Donc, pour c'est pour ça que débat, vous avez le droit à une clochette.
Tout à fait. Je retire le mot d'ailleurs. Parce que,
il n'y a pas de sous-entendu.
Parce que malheureusement, en mon temps, crasseuse, ça voulait pas dire ça. Mais bon, ça veut dire quelqu'un de sale. Donc cette droite-là, non seulement ne s'élève pas, mais descend très bas. Alors quand on a un numéro 1, Pécresse, dont la médiocrité est évidente, je l'ai entendu en meeting, c'est à pleurer. Il
n'a
pas de programme. Non, parce que c'est évident. Quelqu'un n'est pas capable d'expliquer. Moi, j'ai toujours une question qui me vient à l'esprit, c'est comment allez-vous financer, non pas le déficit, on ne parle même plus de déficit, le budget de l'État ? Par quelle façon vous allez obtenir une assiette fiscale plus grande et large ? Eh bien, elle ne répondra pas à ces questions, tout comme Zemmour et tous ces candidats, cette merde de candidats incapables. Et l'histoire de la Startup Nation, j'ai envie de dire qu'il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'errances durant le mandat de Macron, mais... ce qui est en face est pire.
Vous voulez répondre à Mitch?
Non, moi, j'ai rien. Vous savez, moi, je ne porte pas de jugement sur les candidats. En tout cas, moi, j'ai lu tous les programmes des candidats. Et ce qu'il y a, si vous voulez, chez Valérie Pécresse, en tout cas, elle propose, par exemple, l'augmentation du SMIC. Elle dit qu'il faut défiscaliser les charges sociales sur le patronat.
Alors, je peux pas parler.
Donc, elle parle de défiscaliser, effectivement, les charges sociales. Donc, voilà, elle dit de rembourser excessivement la dette, ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mène une politique ultralibérale. Elle veut supprimer 250 000 fonctionnaires, etc. C'est son programme politique. Je suis pas là pour la défendre. Hein. Je fais une description, hein, en tant que commentaire. Voilà, je décris les situations. Et même chose pour, par exemple, Mélenchon, qui veut augmenter le SMIC, etc. Qui veut...
Sur Pécresse. Hein.
Pardon ?
Restons plutôt sur Pécresse.
Voilà, sur Pécresse. Non, mais voilà.
Mélenchon, autre chose.
Voilà. En tout cas, je parle des candidats en général. En tout cas, sur la question de Pécresse, si vous voulez, il y a effectivement autour d'elle des tendances de droite aujourd'hui, comme par exemple Ciotti, qui tend vers effectivement Éric Zemmour, mais elle a eu un discours extrêmement très ferme. Elle a rappelé il y a 2 jours que Zemmour n'était absolument pas dans son logiciel politique. Elle l'a critiqué. Souvenez-vous, sur ces news, elle l'a critiqué.
Je vous donne la parole, messieurs.
Après, on peut.
Messieurs, Ahmad Gamal Abina dans l'ordre et ensuite Abdeslam Itach. Je reviens juste après le Quad 9, s'il vous plaît.
Les informés, le Quad 9.
Et le Quad 9, comme chaque mercredi, c'est avec le docteur Majid Soussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir, Adil.
Alors, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, aux Invalides chez les militaires et au SAMU. Mon cher docteur, on vous écoute pour votre signature concernant votre carte blanche du Quad 9.
Eh bien, écoutez, mon cher Adil, je suis bien content de vous retrouver.
Ah.
Je dois avouer. Ah bah oui, je dois avouer que j'ai eu peur que vous donniez suite à votre projet, que vous nous quittiez.
Ça continue.
C'est vrai, il est fort, ce docteur. C'est vrai que l'offre est tentante.
Oui,
mais pensez à votre famille, à vos auditeurs. Vous ne pouvez pas tout lâcher. Vous ne pouvez pas tout lâcher pour une carrière d'étalon à la campagne à 10 000 euros la saillie. Je comprends que la proposition d'Éric Zemmour de donner 10 000 euros à chaque enfant né dans les campagnes françaises vous tente. Mais je ne suis pas certain qu'il ait pensé à votre profil génétique pour repeupler la France.
L'étalon à la campagne.
Incroyable.
Eh oui, mon cher Adil, la montée de l'extrême droite nous annonce des drames. Nous avons eu beau lutter, nous avons presque perdu et la pensée isolationniste se répand et contamine des pays auxquels nous n'aurions pas pensé. Ce qui donne lieu à des situations incongrues cette semaine.
Oui.
Par exemple, c'est un Français qui a reçu une OQTM, obligation de quitter le territoire malien. Eh oui, la junte malienne a offert une revanche de première classe à tous les Maliens qui ont reçu une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ainsi, Joël Mayer, l'ambassadeur de France au Mali, a eu 72 heures pour quitter le territoire malien. Cela peut faire sourire, mais on se retient eu égard tout de même aux 53 militaires français qui sont morts au Mali. Ainsi donc, l'ex-host Sénégal-Niger, qui après avoir été un exemple démocratique, est aux mains d'une junte militaire. Ces mêmes militaires qui s'étaient effondrés, souvenez-vous-en, Adil, devant l'avancée des djihadistes, et qui aujourd'hui veut chasser la France, accusée de néocolonialisme et de ne chercher qu'à se servir au Mali. Ce point peut être ouvert à la discussion, bien sûr, et on pourrait encourager le mouvement en tant que tiers-mondiste, si ce n'était la crainte que les remplaçants soient pires que l'ancien colonisateur. Wagner, puisque c'est d'eux dont on parle, est une société de mercenaires russes fondée par un ancien officier des renseignements militaires russes, et ils sont intervenus en Ukraine, en Syrie, en Centrafrique, où la population ne s'est pas toujours félicitée de son élégance. Ils sont présents en Libye et autrefois ont agi au Soudan à l'époque d'Omar el-Bashir. D'ailleurs, pour vous donner un exemple de leur pratique, des journalistes russes qui tentaient d'enquêter sur leur pratique en Centrafrique sont morts sur place, victimes de d'un crime crapuleux, si on en croit les conclusions de l'enquête, sans doute un peu bâclées. Vous me trouverez pointilleux, Adil, mais la semaine dernière, la Haute-Volta, le pays des hommes intègres, c'est-à-dire le Burkina Faso, était tombé lui aussi aux mains d'un lieutenant-colonel d'une quarantaine d'années qui a déposé le président en titre. La même chose dans des circonstances différentes s'était produite en Guinée-Conakry en septembre 2021. Vous me trouverez soupçonneux, mais j'ai du mal à croire que les régimes militaires soient bons pour leur peuple. Et on ne peut s'empêcher d'être triste devant ce gâchis fait à l'Afrique, qui passe soit d'un maître à l'autre, soit d'un dictateur à l'autre, sauf quelques rares exemples comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud. Et je ne peux m'empêcher de penser que tous ces gens qui se noient dans la Méditerranée ou échouent dans nos bidonvilles européens aurait eu un autre destin sans cela.
Ça, c'est vrai. Bravo. Bravo, bravo, mon cher docteur Majid Soussine. On vous retrouve la semaine prochaine, sans faute.
Avec plaisir, mon cher Adil.
Bravo.
Et j'espère vous aussi. Ne prenez pas trop le verre.
Exactement. Merci à vous. Merci. C'était le docteur Majid Soussine pour le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
On lance la pub et on se retrouve tout de suite après avec Gamal Abina, Abdeslam Itach, Ahmed Chriet et les deux autres sujets.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h36, les informés, c'est avec Amit Chriet. Les informés, c'est avec Gamal Abina. Et enfin, les informés, c'est avec Abdeslam Itach. Messieurs, avant de passer au second sujet et au troisième, je voudrais vous entendre simplement, évidemment, la réaction à Gamal Abina dans l'ordre et ensuite Abdeslam Itach.
Bah, pour une ultra-libérale, je viens d'entendre par une chose intéressante, c'est l'augmentation du SMIC. Avec quoi les finances, on ne sait pas. Évidemment, parce que ils sont tous en train de critiquer la dette, mais en vérité, la dette, elle continue à augmenter de façon abyssale. Le Covid a augmenté la dette de 600 milliards à peu près. Le plan de relance va augmenter à nouveau la dette. Et elle nous parle à chaque fois de ce qu'on appelle des discours électoralistes pour endormir la population. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais payer les femmes au foyer. Enfin bref, tout ça c'est de la plaisanterie. En réalité, ils vont pas dans le cœur de la bête, à savoir comment faire en sorte que la France puisse créer suffisamment de richesses, donc suffisamment de gens pour pouvoir participer à la contribution financière de l'État, donc aux impôts. Et ça, c'est une question qu'elle va éviter à souhait. Aujourd'hui, son problème, c'est quoi? Vous allez rigoler. On est en train de l'appeler islamo-droitiste. Juste parce qu'il est soutenu par Gims. Ça vous donne un peu le débat, le niveau
du
débat.
Il a droit à une clochette.
Fatima Pécresse.
Ah,
Yanis. Elle a été appelée Fatima.
Ah, oui, ouais, comme à l'époque, à l'époque quand Juppé, on l'appelait
Ali Juppé.
Ali Juppé. Donc, c'est dire un peu
ou
le niveau.
Farid Fillon.
Oui, voilà. C'est, alors qu'elle n'est pas du tout. Elle n'a rien à voir avec l'islam. Mais ce qui est certain,
elle
c'est
peut,
que.
Elle peut soutenir l'islam.
Non, elle ne soutient pas l'islam. Elle ne soutient pas. Non, non, elle ne soutient
pas. La République reconnaît l'islam, c'est vous le problème.
Non, elle ne reconnaît pas l'islam. La République reconnaît la République ne reconnaît pas les religions, la République reconnaît la laïcité et ne s'insère pas dans le jeu de la religion. C'est ça la République.
Non, mais elle reconnaît les religions.
Non, elle ne reconnaît pas les. Mais non, la République ne reconnaît rien, elle est neutre. On appelle ça la laïcité. La République.
Oui, la République, c'est pas la négation quand je dis elle reconnaît la religion.
C'est pas la négation, je dis que la République.
Elle reconnaît l'expression religieuse.
La République, c'est séparé.
Alors la République, elle reconnaît ou elle ne reconnaît pas les religions?
Elle ne reconnaît pas les religions. Elle accepte le fait religieux.
Elle ne reconnaît aucune religion.
Non, elle ne reconnaît pas les religions, elle reconnaît le principe républicain.
On parle d'une religion.
On parle
d'expression religieuse.
C'est compliqué à expliquer. Tu me coupes depuis tard, je t'explique le truc que je te dis, c'est que en termes constitutionnels, l'expression religieuse naturelle, on n'en discute même pas, c'est pas ça le sujet de la République. C'est la laïcité qui dit que la République ne s'immisce pas dans les affaires religieuses. À part le concordat Alsace-Moderne,
ça, c'est vrai.
Donc, quand un homme politique parle du fait religieux, il ne parle pas de la religion, il parle d'un courant religieux rigoriste, islamiste ou salafiste, on va l'appeler comme on veut, pour disqualifier une partie de la population. Le problème de Pécresse, c'est que son programme, c'est essentiellement un discours qui flirte avec le zémourisme. Alors maintenant, elle sent bien que Zemmour, elle a sa place, elle est bien installée, elle peut plus trop être dessus. Et d'ailleurs, je vous fais rire. Même Marine Le Pen aujourd'hui a entièrement revu sa copie de 2017. Elle n'est plus dans l'histoire de la déchéance nationalité, elle n'est plus dans l'histoire de reconduite à la frontière, elle n'est plus dans l'histoire d'annulation des doubles nationalités. C'est fini tout ça, parce qu'elle se rend bien compte que c'est un discours qui est privatisé par Zemmour et par une certaine droite, et elle veut se singulariser. Donc pour qu'elle soit éligible au second tour, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui, il faut qu'elle ait un discours modéré. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens de la classe politique ne parlent plus d'économie, mais ils parlent uniquement de questions sociétales parfaitement marginales.
Abdeslam Itach. Alors, et on passe au second sujet.
La phrase exacte, c'est la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte.
Absolument.
Voilà. Moi, je voulais juste revenir par.
Mais on ne parle pas de ça. On parle de l'expression religieuse.
Ne reconnaît.
Vous avez un problème avec la terminologie, je pense. Hein. Excusez-moi.
C'est dans la Constitution.
C'est pas la différence entre l'expression religieuse, c'est-à-dire que j'ai le droit d'exprimer ma religion.
Dans ça, c'est la laïcité.
La République, c'est pas ça.
Vérifions. Chacun vérifie.
C'est les droits de l'homme. Constitution de 1948.
Chacun vérifie. Messieurs, tac. S'il vous plaît, messieurs.
La République.
Messieurs, ce que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est que chacun vérifie de son côté. Chacun vérifie de son côté.
Excuse-moi, vas-y, je t'en prie.
Chacun vérifie de son côté. Voilà.
Non, mais il y a une vraie schizophrénie dans l'équipe de Pécresse. Et on le voit bien. Paradoxalement, elle parle d'augmentation du SMIC. Elle parle de défiscalisation. Donc, moins de rentrées et des équilibres de l'assiette fiscale.
Absolument.
Et en même temps, le remboursement de la dette. Je ne comprends pas. Il y a deux choses qui sont complètement antagonistes. C'est la défiscalisation, donc ne plus faire rentrer d'argent public, et en même temps payer. Et vous voyez finalement, Valérie Pécresse, elle fait du en même temps.
Absolument. Oh, c'est
donc,
bien dit ça.
Donc voilà, c'est. Et ensuite, moi, je voulais juste apporter une précision concernant la victoire de Valérie Pécresse à la région, à sa première élection. C'est pas Pécresse qui a gagné, c'était la gauche qui avait perdu. Puisque Jean-Paul Huchon, en fait, n'avait pas été reconduit pour être candidat, et c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale, son nom me reviendra.
Oui, c'était Colilla, je vois très bien.
Oui, qui avait été candidat. Claude Bartolone. Merci pour ces éclairages. Mais donc, vous voyez, et finalement, le problème de la droite, vous voyez, c'est lorsqu'on leur parle d'économie, vous parlez d'immigration. Vous voyez, et ils reviennent toujours à ces bas instincts.
Et on continuera. Et on continuera d'en parler, vous le savez, parce que c'est ici que ça se passe dans les informés. Second sujet, messieurs, Anne Miva, vous la connaissez?
Bien sûr.
La compagne, la femme de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin qui en prend, évidemment.
Reporter international.
Bon, voilà, exactement. Grand reporter de guerre, Anne Miva, elle est aussi écrivaine. Elle était en pleine promotion de son ouvrage, de son livre, sur CNews. Présenté par, évidemment, l'émission présentée par Pascal Pro. Et évidemment, Pascal Pro, ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur l'affaire qui touche actuellement qui ? Son mari, Jean-Jacques Bourdin. Écoutons un petit extrait sur CNews d'Anne Miva.
comment vous vivez cette situation qui est quand même extrêmement...
Comment voulez-vous la vivre, à part la vivre mal? Personne ne vivrait cette situation-là bien. Et moi, je suis obligée d'être dans les médias aujourd'hui parce que j'ai ce livre. Et... Ben, vous entendez mon émotion. Je ne sais pas si je continuerai à écrire des livres. Je ne sais pas si je continuerai à aller dans les médias. Parce qu'il y a trop... Justement, là, on peut parler de haine. De haine. De haine. Et ça, personne ne le mérite.
De haine. Elle le répète trois fois. Gamal Abina.
Elle est musulmane?
Non mais attendez.
Répéter trois fois, c'est plutôt,
ouais. Moi, je peux la comprendre. Je peux non, la comprendre.
Évidemment qu'on
dans
la comprend.
Dans sa position, on peut la comprendre.
Alors,
mais...
Deux choses.
Ce qui est arrivé à Jean-Jacques Bourdin, c'est. Enfin,
je vais faire un mauvais jeu de mots.
Est-ce que c'est normal ou pas?
Ça vous dérange que je fasse un très mauvais jeu de mots? Jean-Jacques Gourdin a pris un Bourdin après un coup de Gourdin.
Non.
Mais est-ce que c'est le lieu?
Non, mais très honnêtement.
Est-ce que c'est le lieu?
Racontons pas.
La télé, c'est pas la justice.
Oui, évidemment, on appelle ça le tribunal médiatique.
Mais c'est même, tribunal médiatique.
De même, Jean-Jacques Bourdin, je le rappelle, à toutes fins utiles, lorsqu'il a reçu Tarek Ramadan sur son plateau, ne s'est pas du tout interdit de lui faire un procès, clairement. Médiatique sur une affaire qui n'avait pas encore été jugée. Et ça n'a pas été à moitié, il y a été vraiment violemment. Non pas que Tarek Ramadan ait tort ou raison, puisqu'il ne s'est pas jugé, je ne rentre pas là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'il a été attaqué violemment. Et alors, j'ai envie de dire que cette dame-là, qui est bien gentille de jouer la victime expiatoire de ce qui est arrivé à son mari, c'est vrai que le mari se fait virer alors qu'il n'y a pas de procès, c'est dégoûtant. Là-dessus, on est d'accord. En revanche, qu'elle dise qu'elle le vive très mal, alors que ça lui profite comme jamais, parce que je ne suis pas certain que sans l'affaire de son mari, son livre aurait été visible de cette façon. Évidemment, il a vite pour parler du mari.
Mais elle est grand reporter, elle est connue.
Mais non.
Elle n'a pas besoin de Jean-Jacques Bourdin.
Non, cette publicité est énorme, parce que connu grand reporter, ce n'est pas vrai. J'en connais plein de grands reporters qui sont quasiment inexistants aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle profite...
Oh, mais Anne Nivelle est connue.
Non, mais c'est bien, la polémique, ça rend service à la personne qui veut faire parler de son livre. Il n'y a pas plus beau qu'une polémique. Alors évidemment, il vaut mieux qu'elle prenne une posture de femme affligée.
Elle le dit d'ailleurs, elle le dit.
Oui, mais c'est une femme affligée. C'est logique qu'elle ait cette posture-là. Parce qu'elle croit que son mari dit la vérité. Je peux imaginer qu'il dit la vérité, c'est possible. Mais à côté de ça, parler de son mari, donc parler de son livre, c'est tout bénef pour elle. Donc ce côté, je suis victime, en même temps j'ai plus rien, ça permet de faire vendre des bouquins. Ne vous inquiétez pas.
Vous pensez vraiment?
Oui, clairement, je pense. Bon. Que la polémique
pour ouais, bon, c'est votre point de vue. Amix Riette.
Moi, je crois qu'effectivement, malheureusement, il y a une enquête qui est en cours, donc je pense qu'il faut attendre la justice. Hein. Le tribunal médiatique, il faut vraiment éviter de porter des jugements, même si tout être humain n'est pas parfait en soi. Jean-Jacques Bourdin, il a sa vie privée à lui. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Oui.
Franchement, ah bah, c'est pas aujourd'hui.
Ça, c'est la
on
justice.
Peut être accusé d'avoir parlé avec une femme, on peut être accusé d'attouchement sexuel ou je ne sais pas aujourd'hui. Je se méfie. Non, mais avec les mouvements MeToo, etc. et tout, pour le coup, je suis pas zémourien, vous voyez. Mais il faut se méfier. Après,
c'est pas Zemmour, c'est pas beaucoup
non, parce que c'est Zemmour qui critique MeToo, etc. Ces mouvements
raffinés. Ouais, le droit,
etc. Ça. Non, mais je disais ça de façon humoristique. Donc, okay. Par rapport à ça, donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir attendre effectivement la justice, l'enquête qui va déterminer ça. Aniva est une grande reportrice, donc qui est très connue, qui fait des médias partout, qui a une notoriété, et donc tout le monde sait. Moi, j'ai lu ses livres effectivement qui sont intéressants, j'ai même discuté avec elle, je la connais. Donc, par rapport à ça, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement, malheureusement, Jean-Jacques Bourdin a été viré sans même qu'il y ait un procès.
Viré de quelle façon?
C'est illégal. Sans ménager, c'est pas que c'était.
Voilà. Sans le ménager, ça c'est sûr.
Sans ménager, je pense que là, ça.
Il a même pas eu le temps de dire au revoir à son public.
Ça pose vraiment des problèmes aujourd'hui sur le modèle de société que l'on a et sur cette façon-là, comme ça, de juger ce tribunal médiatique comme ça. Et ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre vraiment ses précautions. Et quand bien même il serait aujourd'hui accusé sur ses faits, c'est sa vie privée à lui.
Enfin, prendre ses précautions, c'est compliqué.
C'est sa vie privée à lui et je ne suis pas à même de le juger.
À même de le juger, justement. 01-53-48-3000, je voudrais vous entendre venir échanger avec nous sur l'antenne, s'il vous plaît. Je vous attends au standard. Abdeslam Itach.
En fait, moi je ne présume pas de l'insincérité de Madame Niva, justement, par rapport à ce qu'elle vit. Je pense que quand on est dans l'œil du cyclone comme ça, c'est jamais très agréable. Ensuite, Amit Riette, vous avez raison, on ne peut pas... Laissons faire la justice. Il est présumé innocent. Il aura à s'expliquer par rapport à tout ça. Et en effet, le tribunal du PAF me pose problème. Sous prétexte qu'il serait plus, enfin, qu'il pourrait potentiellement être coupable, me pose problème. Et vous voyez, et là aussi, ça s'emballe lorsque l'on a des candidats qui disent je ne veux pas être interviewé par Jean-Jacques Bourdin. Ils participent à tout ça.
Et en fait,
ils veulent, oui, mais ils l'accusent. Mais vous voyez, finalement, il est jugé, pendu sur la place publique, enfin, jugé, condamné et pendu sur la place publique sans avoir eu à se défendre.
01 53 48 3000, je crois qu'on a Tolos, non? C'est Tolos? Toulouse. Bon, Fatima. Je ne sais pas qui c'est. Fatima. Ah, c'est Fatima, pardon. Oh, excusez-moi. Fatima, bonjour, je vous ai appelé Toulouse.
Bonsoir, Abby. Bonsoir. Vous nous appelez Bonsoir à vos invités.
Elle est pas mal, celle-là. Non, j'ai pas compris, parce que sur mon écran, moi, du standard, c'est marqué Toulouse. J'ai compris que c'était Toulouse.
Ah oui.
Non, mais ça arrive, ça arrive. Autant pour moi. Je vous
non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est l'arroseur arrosé.
Oui.
Moi, j'écoutais souvent les interviews de Gourdin, pardon, Bourdin. Et donc, il ne se passe pas. Il n'y a pas un invité. Oui, il n'y a pas une question sur l'islam et le foulard.
Ah.
Revoyez les interviews
régulièrement. J'ai pas l'impression que ça soit régulièrement ciblé.
C'est régulièrement. Moi, j'écoute régulièrement le matin.
Oui.
Maintenant, comme je suis payée à ne rien faire parce que je me suis cassé le physique en travaillant assez longtemps, donc il n'y a pas un jour. Ceci d'une part. D'autre part. La dame, elle dit que, bon, elle est très, comment dirais-je, elle est très touchée, tatati, tatata. Ah, donc, il y a, pour certains, ils sont condamnés, c'est-à-dire, vite fait, bien fait. Et pour d'autres, ah non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Elle aussi, elle a écrit un livre, Dans quelle France on vit, il y a longtemps que j'ai lu un peu. Et donc, c'était sur la banlieue, sur, je crois, les mureaux, sur ceci, sur cela. Donc, c'est l'arroseur arrosé, chacun son tour. Quand il y a le feu chez ton voisin, il vaut mieux l'aider à l'éteindre. Parce que ça peut arriver chez toi. Et voilà. Et je vous remercie infiniment.
Merci Fatima, on vous embrasse.
Je vous remercie, incroyable. Oui, dis plutôt. Allez, au revoir,
à très bientôt. J'aime bien Fatima, moi. C'est une fidèle auditrice régulière. Messieurs, non mais elle n'a pas tort quand il y a l'incendie.
Rappelons quand même une chose importante.
Gamal Abina, avant de passer, oui, j'aimerais traiter de Jordan Bardella.
Il y a la parole.
Jordan Bardella.
C'est-à-dire que la question de Bourdin, c'est quoi? C'est qu'il est accusé par une femme qui a dit qu'il aurait tenté de l'embrasser de force. Pour prouver cela, c'est la parole contre parole.
C'est impossible.
Et s'il n'y a pas de témoin, c'est l'affaire qui a 7 ans, enfin de 2014. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que là même, le tribunal médiatique s'emballe parce que finalement, les faits caractérisés, on dira ce qu'on voudra, ne peuvent même pas être prouvés. C'est très compliqué. Donc.
Exactement, c'était par une journaliste de RMC.
C'est journaliste, absolument.
Jordan Bardella mis en examen pour ses propos sur Trump qualifié de République islamique. Est-ce qu'on a un sonore? Non, je crois pas. Mais c'est pas grave, comme on n'a pas le temps. Jordan Bardella, vous savez quoi? Il s'est attaqué clairement à au maire de Rabé, pardon, au maire de Trump, là. Non, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça, évidemment. Alors, le problème de Bardella, c'est qu'il a tendance à s'emballer un petit peu trop vite et ça tombe très vite au ridicule. C'est pas la première fois qu'il est poursuivi, c'est pas la première fois qu'il va être condamné, mais surtout République islamique.
On reproche quoi à Trump?
Qu'il se soit un musulman qui serait à la tête, enfin musulman, l'arabo-musulman, je sais pas ce qu'il est d'ailleurs, qui serait à la tête d'une ville où il y aurait une majorité de maghrébins. C'est ça sa logique. Sauf que moi j'ai envie de dire que quand on parle d'un des anciens du FN qui reste quand même très proche du FN, que Ménard, pour ne pas le nommer, on n'a jamais dit que c'était responsable d'un retour de du Troisième Reich, par exemple, ou du Quatrième Reich. Mmh. On ne dit pas que c'est un nazi, alors que les propos qu'il tient sont quand même extrêmement connotés. Donc ce genre de raccourci ridicule, et je dis bien ridicule...
Des propos nauséabonds, c'est comme ça que vous voulez qualifier?
Non, même pas ridicule, moi je vais encore plus loin. Il est ridicule, c'est un clown. Un clown dit n'importe quoi. La République islamique, c'est circonstancié, c'est dans un espace très particulier, c'est confiné, ça s'appelle l'Iran, c'est tout. Après lui, s'il a envie de voir des républiques islamiques partout et des régions islamiques ou je ne sais quoi, ça s'appelle non seulement un propos ridicule, mais un propos injurieux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va être poursuivi et qu'il va être condamné, mais surtout, il était condamné pour ça, j'ai une bêtise, mais surtout, ça rappelle que Jordan Bardella, est très très limité intellectuellement. Parce que ces raccourcis grossiers pour faire peur à la population, alors que la population est en panique pour d'autres raisons beaucoup plus sérieuses, l'augmentation des prix qui arrive et qui va être monstrueuse. On n'en parle pas, ça c'est plus inquiétant qu'une fausse réponse.
Hamid Chriat, oui.
Ces propos visent deux objectifs. Le premier, c'est de continuer à fracturer la société française sur une politique de la peur et un langage.
Exact.
Un langage qui terrorise les populations, parce qu'on aime bien utiliser le mot terroriste, qui terrorise les populations. Deux, c'est aussi être dans ce que j'appelle moi la politique de l'irréel. Je ne sais pas Bardella où vit-il, mais en tout cas, il ne connaît pas bien les cartes.
Dans le 93.
Dans 93, c'est ce qu'il dit, en Seine-Saint-Denis. Mais en tout cas, il ne connaît pas bien les quartiers populaires et la France. Moi, je pense que c'est très bien cette condamnation-là, parce que ça va permettre aussi aux hommes politiques d'être beaucoup plus responsables. Lorsqu'on est homme politique ou femme politique, on porte une parole, on porte une responsabilité. Et être élu, c'est aussi être responsable de ses propos.
Il n'est pas condamné, il est mis en examen.
Il est mis en examen, c'est ce que j'ai dit.
Non, normalement, il va être condamné, je pense. En tout cas,
c'est possible.
Bon.
Voilà. Bon, laissons la justice faire son travail. Abdeslam Itach.
Non, mais c'est pas sa première sortie. Il a été inquiété à plusieurs reprises. Hein. D'ailleurs, il est sous le coup d'une enquête concernant les attachés parlementaires à l'Union européenne. Mmh. Donc, vous voyez, mais
c'est une question de gros sous, par contre.
Oui, mais vous voyez, la probité n'est pas l'élément du Rassemblement national. Mais parlons-en du non Rassemblement national. Mmh. Est-ce que vous croyez que ce type de propos vise à rassembler la nation? Voyez, laisser entendre qu'une partie de la communauté nationale ne serait pas l'État français et parler d'islamistan ou je ne sais quoi, c'est juste nauséabond. C'est encore une façon de faire de la politique qui est honteuse.
Merci, messieurs.
J'aimerais juste ajouter une phrase. Deux choses. La responsabilité aussi des Français de confession musulmane, elle est importante. Ils doivent s'engager au sein de la société française et dire les choses. Aujourd'hui, avoir des boucheries cachères ou halal, ça fait partie de l'islam. L'islam fait partie de la République, fait partie de l'État français. Et là aussi, il va falloir définir les terminologies.
Exact. Alors, pour en placer une, il y a une chose qu'il faut rappeler de façon permanente à partir d'aujourd'hui, c'est que lorsque ces gens, je parle d'extrême droite ou Zemmour, toute cette clique-là, attaquent les arabo-musulmans de France et les Africains en général, lorsqu'ils nous attaquent, ils attaquent des gens faibles. Ce sont donc une troupe de lâches. Parce que nous n'avons pas de représentants, pas de défenseurs, pas d'organisation, pas d'État derrière nous. Nous sommes tous seuls et nous représentons moins de 10% de la population non organisée. Donc ce sont une troupe de lâches, rappelons-le systématiquement. Le jour où ces héros vont attaquer le vrai problème, à savoir la finance de Wall Street qui a flingué l'économie tous les 10 ans, ce jour-là, je parlerai de héros. Aujourd'hui, ce sont des lâches.
On a Chalgoumi qui nous défend.
Eh bien, ça y va fort,
C'était une boutade.
Merci à Gamal Abina. Merci.
De la beauté de absolument. Le vrai visage de la
merci. Paix, absolument, vous avez raison. C'est ça. Merci à Mitchriad, merci à Abdeslam Itach. Ah, Bilal Ledman, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Comment
bonsoir,
ça va?
Ça va très très bien.
Alors, qu'est-ce qui nous attend comme programme de 20h à 21h dans Thème Sport?
On va parler de l'Olympico d'hier soir entre Lyon et l'Olympique de Marseille, remporté par Lyon. On parlera aussi de la fin des jauges dans les stades en France aussi, avec la crise sanitaire. Sans oublier la première demi-finale entre le Sénégal et le Burkina.
Aïe.
Et on aura un invité, Romain Molina, voilà, journaliste sulfureux et aussi écrivain. Sulfureux pour les enquêtes qui mène en fait. Romain Molina sera avec nous. Voilà.
À ne pas manquer, ça se passe dans une poignée de minutes. Bilal Ledman, 20h-21h. À ne pas manquer, parce que évidemment, pour tous les amoureux du sport.
Super
à bien la réalisation, bien. C'était Yanis. Merci aux auditeurs 01 53 48 3000. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.